Alors que nous sortons à peine la tête de l'eau, il est déjà temps de faire un premier bilan des actions et aides mises en place durant la pandémie du coronavirus. Ainsi, nous nous retrouvons aujourd'hui à Lormont, au siège du Fonds Solidarité Logement Gironde, pour faire un petit retour sur son aide exceptionnelle ayant permis à de nombreuses personnes de s'en sortir et de payer leur loyer. Un projet comme celui-ci ne se met pas en place seul. C'est pourquoi, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule autour de la table. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table? On va commencer peut-être à ma gauche. Bonjour.
Bonjour. Virginie Vémar, Gironde Habitat.
Donc, bonjour. Patricia Lebon, Gironde Habitat également.
Et toujours Gironde Habitat, moi je suis Morgane Goupille.
Et bonjour, nous Marie-Morgane Cambon, Aquitanis.
Céline Bertrand, Aquitanis.
Florence Etourneau, directrice du Fonds Solidarité Logement.
Fatia Ouchi, conseillère technique logement.
Aude Dagneau, conseillère technique au FSL.
Karine Bouchez, Domo France.
Bonjour, Lydie Chelmas, Domo France.
Christophe Berthaud, bonjour, responsable du pôle gestion préventive et sociale des impayés à Maisolia Habitat.
Eh bien, bonjour à tous. Comme vous avez pu l'entendre, il y a pas mal de monde autour de moi, pour le coup. Alors, je vais commencer un peu par une première question. Juste déjà pour faire un petit retour en arrière et savoir comment une aide comme ça exceptionnelle peut se mettre en place, du coup. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer comment vous avez entendu parler de cette aide? Et on peut peut-être commencer par le FSL, du coup. Comment est venue l'idée de cette aide?
Ben, en fait, cette aide, c'est pas une idée stricto sensu du FSL, puisqu'en fait, c'est sur proposition de l'État qui a mis en place une aide, enfin une proposition de dispositif pour les FSL volontaires qui s'adresse au public habituellement non éligible aux aides du FSL. Bon, partout en France, il existe au moins un FSL par département. Et en fait, la plupart des FSL s'adressent plutôt au public relevant des minima sociaux. Et en fait, à la faveur de la pandémie et des difficultés économiques auxquelles ont été confrontés de nombreux locataires, il est apparu que des personnes qui avaient des statuts singuliers comme auto-entrepreneurs, des indépendants, des commerçants ou des gens qui se sont retrouvés avec... leur activité salariée fortement diminuée, n'étaient pas éligibles aux aides du FSL, donc à proposer ce dispositif. Ce qui fait qu'au niveau du conseil d'administration du FSL, cette proposition a été validée. Donc ça s'est passé lors d'un conseil d'administration en juin dernier, ce qui nous a amené à revoir les critères à titre exceptionnel et dérogatoire. Voilà, c'est des cases obligées. Et surtout, nous, dans notre démarche, notamment par rapport aux bailleurs, dans un premier temps, on s'est adressé, comme d'habitude, à nos partenaires privilégiés que sont les services sociaux, des départements, des CCAS, de la MSA, de la CAF. Et en fait... De notre place, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou dans la raquette parce que ces publics n'ont pas l'habitude de s'adresser aux services sociaux. Par contre, ils sont en lien au quotidien avec leurs bailleurs et que c'était les bailleurs qui les connaissaient le mieux. Donc, en fait, dans un deuxième temps, nous avons associé l'ensemble des bailleurs.
D'accord, très bien. Alors, les bailleurs, justement, comment cette prise de contact s'est-elle faite? Du coup, est-ce qu'un des bailleurs veut se lancer?
Je vais essayer de me lancer. Ça paraît difficile de répondre à votre question sans se rappeler sur ce qui s'est passé. Et c'est vrai que comme à Gironde Habitat, comme l'ensemble des bailleurs, on a été obligé de faire preuve de résilience et d'agilité pour traverser cette crise. Et c'est vrai que Florence Etourneau le disait, à la faveur d'une campagne d'appel que l'on a lancée juste après le confinement, on a fait le constat qu'on avait de nombreux publics qui n'étaient pas ceux avec lesquels on était en lien habituellement sur la question de l'impayé. Et on s'est dit que ce public-là, on ne pouvait pas l'aider, on pouvait l'accompagner au mieux de ce qu'on faisait, c'est-à-dire gérer l'impayé, alors que notre volonté, c'était vraiment d'accompagner les locataires sur leurs difficultés financières. Donc quand on a eu connaissance de ce dispositif porté par le FSL, on a rapidement mobilisé les équipes locatives qui sont en agence et au siège pour promouvoir ce dispositif exceptionnel et puis en faire bénéficier un maximum de locataires en visant ce public qui n'entre dans aucune case des leviers de solvabilisation qu'on avait à l'époque.
Est-ce que quelqu'un veut compléter peut-être ?
L'idée de ce dispositif, c'était vraiment d'enrichir la palette qu'on n'avait pas, c'est ce qui a été rappelé. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé devant des situations difficiles, dans la mesure où c'est des familles qui, d'habitude, n'ont pas ce genre de difficultés. Donc c'est déjà difficile de pouvoir ouvrir un peu cette porte pour ces familles-là et d'être accompagnées. Donc l'idée, c'était vraiment parce que c'est par exemple des familles où l'époux, enfin nous c'est ce qui s'est passé, où l'époux était dans la restauration, madame faisait des ménages donc chez des particuliers. Donc c'est vrai que en temps normal, ils n'ont pas forcément de difficultés dans la gestion de leur budget. Et donc c'était vraiment approcher ces familles-là. Et donc c'est vrai que ce dispositif élargi a permis, et en plus simple, parce que c'est la simplicité dans la constitution des dossiers, ont permis effectivement d'accrocher ces familles et de pouvoir les garder, les maintenir dans le logement et de pouvoir trouver une solution pérenne.
Et alors justement, comment cette constitution de dossiers simples, elle s'est mise en place ?
Justement, par rapport à l'élargissement au niveau du public, on a élargi aussi le fait d'être sollicité, puisque normalement, au niveau du FSL, ce sont les travailleurs sociaux qui constituent la demande avec les familles, ils les reçoivent. Et là, effectivement, on a élargi aussi par rapport aux bailleurs, puisque les bailleurs ont pu aussi solliciter le service au niveau de cette aide exceptionnelle. Donc, un point de situation a été fait par rapport aux bailleurs, une fois qu'ils avaient rencontré le locataire. Et suite à ça, ils constituaient le dossier. Alors du coup, apparemment, je vois que c'était quelque chose de simple. Je suis contente de l'entendre parce que c'est vrai que constituer un dossier, il y a quand même tout l'aspect administratif aussi derrière. Donc ça voulait dire aussi que vous connaissiez bien vos locataires. Dans la simplicité, ça veut dire aussi que vous avez su ou que vous avez pu constituer une demande. Donc c'est bien.
Pour revenir sur ce qui vient d'être dit, nous, les familles ont été orientées dans le cadre, en fait, à l'occasion d'une réunion de prévention des expulsions. Donc, on a pu revenir sur des situations et à ce moment-là, flécher des personnes sur lesquelles on n'avait pas forcément pensé à ce dispositif-là. Et après, nous, effectivement, dans le cadre de nos contacts réguliers en phase précontentieuse et parfois même contentieuse, on a pu faire appel à ce dispositif. Et ça a permis, moi j'ai en tête deux situations, mais une en particulier où on avait une dette quand même qui était à 3 500 €, hein, qui n'est pas anodin. On était à plus de 6 mois de loyer, une situation familiale qui se dégradait, le couple qui était en perte d'emploi l'un et l'autre. Et ça leur a permis de rebondir. Et la dette a été soldée très rapidement, puisqu'entre le moment de la constitution du dossier et le moment où les fonds ont été versés sur le compte du locataire, il ne s'est même pas écoulé un mois. Et en fait, aujourd'hui, ils repartent sur des bases saines. Le loyer est réglé de façon régulière. Et voilà. C'était vraiment quelque chose de positif.
Et alors justement, donc... Pardon, oui, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose, monsieur Berthaud.
Oui, effectivement, oui, parce que ça a été un enjeu particulier. Les enjeux étaient multiples, en fin de compte. Ce n'était pas uniquement pour demander une aide pour demander une aide. C'était aussi demander une aide pour rechercher en même temps une solution pérenne. Parce que certaines familles ont rencontré de grosses difficultés dans le cadre de la pandémie. On a eu plusieurs témoignages, certains ont été effectivement évoqués à l'instant. Mais la difficulté, c'était de préserver cet équilibre. Et là, ça a demandé aussi, grâce à des partenariats, parce qu'il fallait être réactif pour tout le monde. Le FSL a été extrêmement réactif, les bailleurs ont été réactifs. Il fallait être aussi complémentaire. Parce qu'on s'est retrouvé avec des situations où l'aide n'allait pas forcément être la solution pour le maintien dans le logement. Donc il fallait mettre en place, nos partenariats, des accompagnements spécifiques, des diagnostics spécifiques. Et cela nous a même conduit parfois à se dire, non, ce dossier-là, je ne vais pas forcément le constituer, parce que la constitution était quand même assez lourde, mais très intéressante et très enrichissante. On ne le constituait pas, on préservait le lien avec les partenaires. Les partenaires prenaient le relais, soit dans un cadre partenarial spécifique, soit dans un cadre partenarial avec des mesures avec des locataires qui étaient suivis d'ores et déjà dans le cadre de mesures d'accompagnement de type AVDL. Et ça, c'était là, pour moi aussi, ça a été le but, ça a été l'objectif de cette démarche. Et de nombreuses familles, hein, d'ailleurs, ont su nous le témoigner. Et ça, c'était aussi particulièrement gratifiant pour l'ensemble des équipes. Je pense que vous allez le retrouver certainement dans vos témoignages. Parce qu'en fin de compte, comme ça a été également dit, c'était des personnes qui n'étaient pas forcément exclues des dispositifs. Mais pour certaines situations, on a eu quand même des difficultés pour les capter et maintenir le lien. Parce qu'en fin de compte, ce sont des personnes qui avaient l'habitude, qui ont pu aller voir à un moment donné, dans le cadre de la pandémie, les partenaires, les services sociaux, MDA, CCAS. Ils se sont retrouvés dans une situation assez délicate parce qu'on leur exprimait légitimement, non, on ne peut pas vous aider. Et ces locataires-là, certains nous ont dit, bah, écoutez, on va le faire, je vais voir, mais j'y crois pas. Et au final, bah, ils ont obtenu l'aide. Et là, ça a permis d'ailleurs à toute phase de procédure, puisque systématiquement, ça nous a permis d'éviter d'introduire des procédures judiciaires. Ça nous a permis d'en suspendre et même anticiper des plans, la fin de plans d'apurement ou de plans judiciaires qui traduisaient en fin de compte une menace d'expulsion qui pèse sur le locataire. Donc franchement, ça a été une démarche extrêmement riche, enrichissante pour l'ensemble des équipes. Et en termes de communication, pareil, hein, on a mis en place nous tout un système de mailing, des adresses mail, une adresse mail dédiée, un numéro de téléphone dédié, un système de relance aussi pour mobiliser les locataires. Et ça a été, on n'a pas forcément eu le retour aussi entre guillemets attendu, puisqu'on a pu contacter à peu près plus de 600 locataires. Mais il y a cette mobilisation et certains locataires nous préféraient ne pas forcément se livrer parce qu'on a retrouvé quand même des situations extrêmement complexes. Des personnes qui étaient en Covid long, des personnes qui ont des événements particuliers. Et j'ai en mémoire un locataire, j'en ai souvent parlé avec le FSL d'ailleurs, locataire qui se retrouve suite à la pandémie en incapacité totale de supporter le masque, il se retrouve licencié. Et ça, cette aide-là, effectivement, a permis l'interruption d'une procédure judiciaire.
Peut-être, justement, vous avez peut-être d'autres, comme ça, d'autres histoires ou d'autres retours.
Oui, moi, je pense à un locataire qui a conservé son emploi pendant la pandémie et qui était, du coup, il y avait beaucoup de pudeur et une certaine honte, en fait, à solliciter une aide parce qu'il se trouvait chanceux, si vous voulez, de conserver son emploi. Cependant, quand on regardait ses fiches de paie, il y avait une forte baisse de salaire parce que les heures supplémentaires sur lesquelles il comptait énormément, ben, il n'y en avait plus. Et suite à ça, ça a réveillé en lui des fortes angoisses suite à une pathologie qu'il avait eue il y a quelques années. Et il a sombré, si vous voulez, un peu en dépression. Donc une perte totale, en fait, une lâcher prise, en fait, sur la gestion budgétaire et puis de son quotidien. Et ce genre de locataires, ce sont pas des locataires qui vont pousser la porte d'un CCAS ou du MDS. Ils sont vraiment dans une très, très grande pudeur, une honte de leur situation. Ils se sentent vraiment responsables, en fait, de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et il était vraiment très gêné. Il ne pensait pas, effectivement, comme vous disiez, il ne pensait pas du tout pouvoir bénéficier d'une aide. Et au-delà de l'aspect financier, en fait, de cette intervention exceptionnelle, donc de ce bénéfice économique, il y a eu aussi, je trouve, un bénéfice psychologique. Parce que des personnes se sentant en grande solitude se sont trouvées accompagnées, épaulées. Ils ont senti une solidarité, si vous voulez, qui leur a fait, je pense, psychologiquement énormément de bien.
Oui, tout à fait. Justement, dans les temps de crise, que l'on voit que la solidarité est importante et se met en place. Et voilà, et vous avez chacun à votre place été acteur de toute cette solidarité. Florence, peut-être un retour du FSL concernant aussi, on parlait des outils mis en place par les bailleurs. C'est important aussi d'avoir comme ça un retour des bailleurs et montrer que ils sont à l'écoute aussi de vous et comment finalement le lien avec le FSL, les bailleurs et les locataires se met en place.
Alors d'abord, nous, on ne doute pas que les bailleurs soient à l'écoute de leurs locataires. Et nous, au niveau du FSL, on mène des activités très régulières de partenariat avec les réunions que les conseillères techniques organisent régulièrement avec les bailleurs sur ces sujets-là. En termes d'organisation, donc c'est une grande nouveauté puisque nous, sur nos procédures, on est tenu avec un règlement d'intervention. Et en fait, nous, nos partenaires sont des travailleurs sociaux. Voilà. Donc c'est vraiment une grande nouveauté. On a complètement associé les bailleurs à l'instruction. Donc, comme nombre, donc une évaluation sociale se doit d'être réalisée par un travailleur social. Et en fait, comme l'ensemble des bailleurs sociaux n'ont pas nécessairement au sein de leurs équipes des travailleurs sociaux, on a élargi donc ce qu'on a évoqué précédemment, l'instruction du dossier avec un document qu'on appelle point social, et ce sont les équipes des bailleurs sociaux qui les ont instruits. Et sans avoir nécessairement la qualité de travailleur social. Donc en fait, nous, comment on s'est rendu compte qu'il y avait ces publics et pourquoi ça m'a motivée de présenter cette demande d'élargissement auprès de la présidente, Madame Piquemal, et auprès des administrateurs d'ouvrir cette démarche auprès des bailleurs sociaux, parce que nous avions eu quelques appels des publics dont on vient de citer certaines situations. Et en fait, ils appelaient au niveau des services sociaux qui à l'époque étaient disponibles ou pas. Et en fait, il y avait les réponses attendues et complètement justifiées. Ah, ben non, vous ne répondez pas aux critères, donc on ne peut pas vous aider. Donc en fait, les plus aguerris ou en quête de solutions, d'informations, donc ont appelé le FSL. Et en fait, se sont ouverts au niveau de l'accueil de leurs difficultés. Et ce qui fait que avec l'équipe technique, donc des conseillères techniques, les bien nommées. Le ciblage à l'endroit des bailleurs m'est apparu comme nécessaire et d'où la validation ensuite. Donc ce qu'on a fait, nous, très matériellement, on est passé par l'union HLM. On a organisé une réunion où on a échangé, puisque c'était à la fois pour nous une première et pour eux aussi, dans le cadre de cette instruction-là, sur un dispositif qui se veut réactif, qui était adossé à une durée de vie, puisque jusqu'au 31 décembre. Ouais, c'est ça. Donc, c'était le timing pour que chaque bailleur a sa propre organisation. Chacun a sa propre organisation, sa manière de faire, pour que ça soit le plus réactif possible. Et que nous, c'est l'engagement qui était attendu du FSL, qu'on soit nous aussi les plus réactifs possibles, en sachant que c'est un dispositif parmi d'autres. Puisqu'en fait, au niveau de ce qu'on appelle communément le maintien, là, c'est un dispositif spécial, mais on a le maintien, je dirais, classique. Ce qu'il y a de très important, c'est qu'en fait, on a instruit, et pour le coup, c'est... précisément 224 ménages qui ont été aidés. Et par rapport aux procédures, ce qui a été évoqué, on est quand même sur 75% de ces ménages, grâce à cette aide, qui étaient en procédure amiable et de mise en demeure, ça s'est stoppé. Et surtout, c'est ce que vous évoquiez, 25% qui étaient en procédure contentieuse, grâce à cette aide spéciale, ça s'est arrêté. Donc, c'est une réussite. Ça aurait pu l'être beaucoup plus en termes de public et de situation retenue, mais enfin bon. Mais c'est vraiment une réussite dans tous les sens du terme pour nous.
Et justement, concernant cette réussite et le fait peut-être que vous auriez pu toucher peut-être un public plus large. Est-ce que vous pensez que le fait justement d'assumer, on va dire, de demander de l'aide, est-ce que c'est pas ce qui a pu freiner certaines familles, puisqu'on parle de publics qui n'ont pas forcément toujours accès, on va dire, à ces aides-là parce qu'elles n'en ont pas besoin. Est-ce que du coup le fait de franchir le pas et de demander l'aide, est-ce que pour certaines personnes ça n'a pas pu s'avérer être un peu compliqué finalement?
Je pense que les bailleurs m'ont développé, mais c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui a déjà été évoqué. Alors même si au niveau de l'instruction, beaucoup sont passés par les services sociaux, mais effectivement, il y a un grand nombre, et parmi les gens qui avaient appelé, effectivement, ils étaient en difficulté, parce que pour eux, solliciter une aide sociale, alors qu'habituellement, ils n'en ont pas besoin, ils ne se mettaient pas dans cette, entre guillemets, cette catégorie. Et puis en fait, la solidarité, elle a joué à différents niveaux, c'est-à-dire que chacun a la propre analyse de sa situation. Et donc, assez paradoxalement, même si on dénonce des comportements assez individualistes, et puis après moi le déluge, là, paradoxalement, oui, mais moi, je suis en galère, mais il y a encore plus en galère que moi. Donc, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est... Alors, nous, on a une lecture deuxième degré, parce que nous, on ne reçoit pas les gens, mais on lit les évaluations. et c'était lisible dans les évaluations.
Après, c'est notre rôle de bailleur que d'identifier, de connaître nos locataires. Donc, c'est aussi notre rôle d'aller les chercher. De ne pas faire contre leur volonté, néanmoins de les accompagner et de leur présenter le dispositif qui était proposé. Donc ça fait partie de l'essence même de notre travail, parce que avant d'arriver en phase contentieuse, il y a toute la partie amiable, et donc la partie amiable, elle est essentiellement faite de rencontres et d'accompagnement et de trouver justement des solutions pour pouvoir ne pas aller jusqu'à la partie contentieuse. Donc c'est tout l'essence de notre métier en tant que bailleur social. Donc c'est vrai qu'on y attache beaucoup d'importance, et le fait d'avoir ce dispositif qui est présenté, qui est proposé, qui est élargi, nous a permis de pouvoir capter justement ces personnes-là. Et ça c'est vraiment notre métier de bailleur social.
Il y en a peut-être qui veulent compléter cette... Oui.
Moi, je voudrais rajouter qu'on peut tirer des choses de cette crise, mais la première, ça a été effectivement la modification de nos pratiques. Nous, on est passé chez Gironde Habitat d'une pratique de gestion des impayés à une prise en compte des situations individuelles des locataires. Alors, comme le dit ma collègue de Domo France, c'est vrai qu'on avait développé cette démarche de l'aller vers qui nous a permis de les convaincre. Mais malgré tout, il nous fallait l'adhésion de ces familles, et certaines, Florence et Tourneau le disaient, n'y croyaient pas. Et je pense que c'est intéressant de passer la parole à Morgane sur un public dont on n'a pas parlé, les étudiants qui ont été sacrément impactés par cette crise. Et tu as peut-être un exemple à nous donner.
Donc moi, en fait, je travaille principalement sur le public étudiant, pour lequel il n'y a pas beaucoup d'aide et qui ont été beaucoup touchés par la crise du Covid. Et notamment, c'est souvent en pré-contentieux que je travaille avec eux, où je les reçois souvent. Il n'y a pas forcément les parents toujours derrière. Donc, ils ont été très isolés. Et j'ai notamment un étudiant. Il avait son titre de séjour qui était en cours de renouvellement. Ça faisait depuis avril 2020 que c'était bloqué, pour lequel il avait des difficultés pour payer son loyer. Notamment, il n'avait plus d'aide APL. Etc. Donc c'est vrai que le FSL, le dispositif lié au Covid, ça l'a beaucoup soulagé. Sa dette a été prise en compte, a été complètement soldée grâce au dispositif. Et du coup, aujourd'hui, il n'a toujours pas son titre de séjour, mais il est à jour de ses loyers et il paye régulièrement, et il est soulagé. De justement pu avoir cette dette, parce que moi j'ai essayé de le retenir un maximum en agence, avec l'aide du FSL Covid, c'est vrai que ça a pas mal soulagé beaucoup de mes locataires.
Et finalement, qu'est-ce que vous retenez de toute cette expérience? Est-ce que vous pensez que si une autre pandémie, on croise les doigts pour que ça n'arrive pas tout de suite, mais si une autre crise arrive, est-ce que vous pensez que finalement une aide similaire pourrait se mettre en place, ou est-ce qu'il y aurait des choses à changer, ou qu'est-ce que vous retenez finalement?
On peut déjà retenir que l'élargissement des critères, c'est une chose qui a été utile au final. Critères de ressources élargis, ça peut nous permettre de capter un public qui, normalement, ne relève pas du dispositif FSL. Peut-être mener une réflexion sur ce point-là, dans le cadre d'un nouveau règlement intérieur ou d'un avenant, tous ensemble, parce que ça peut être, il peut y avoir des conditions derrière. Ensuite, ce que moi j'ai aussi retenu, c'est que effectivement le délai était très contraint. On a eu 2 mois pour mettre tout ça en place. On y est parvenu, hein, grâce à nous tous. Ce qui a changé, c'est on est toujours sur des dispositifs de prévention qui reposent sur le aller vers, ce qui est une très bonne chose. Hein. Il faut le faire. Et là, on est allé avec. En fin de compte, c'est un peu différent. Et on a vu cette richesse de cette démarche. Et ce délai très contraint a permis aussi de modifier les rapports avec les locataires, puisqu'on est rentré quand même, on a été très intrusif, hein. D'ailleurs c'est les précautions oratoires que l'on prenait systématiquement, nous, avant chaque entretien. ça a modifié les rapports et en plus ça a permis aussi, par rapport à ce délai qui était très contraint, de maintenir la continuité du lien avec le locataire, et ce qui a favorisé en fin de compte son adhésion. Même s'il y avait d'autres problématiques qu'économiques, il pouvait avoir des problématiques sociales, il adhérait à un accompagnement à côté. Donc ça a été extrêmement positif. Moi, c'est ce que je retiens. Et on a su démontrer effectivement qu'on est en situation d'assumer ce type de mission pour un certain public, peut-être. Voilà, j'ai déjà parlé, mais peut-être, voire pour certaines situations, si on ne pourrait pas effectivement se substituer, entre guillemets, ou venir en complément des travailleurs sociaux qui ont cette compétence, peut-être pour des situations un peu plus complexes. Après, la réussite, oui, c'est une réussite. C'est une certitude. Pourquoi ? Parce que j'ai, comme un certain nombre d'entre nous, on est sur différents départements. Pour Mésolia, on est sur la Gironde, on est sur la Dordogne, on est sur l'Occitanie. L'Occitanie, c'est 4 départements. Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Ariège. Je vous assure que ce dispositif, je l'ai sollicité sur d'autres départements. Bon, ils n'étaient pas prêts pour le faire. Ben, on voit la différence. C'est que nous, on n'a pu capter aucun public. On n'a pas les résultats aujourd'hui que vous avez annoncés. Et ça crée forcément une différence, même sur des départements. Ils ne sont pas, pour des raisons qui sont certainement totalement légitimes, hein, ils n'ont pas opté pour ce dispositif. Donc là, effectivement, c'est une très belle démarche de FSL Gironde. Ça, pour nous, c'est une certitude. Et si, par extraordinaire, et on ne l'espère pas, il devrait y avoir une nouvelle pandémie, mais là, bon, je pense qu'on serait sur un tout autre registre. Mais ça a été une réussite.
Oui, je voulais juste préciser, je trouve que c'était intéressant aussi on n'est pas venu en substitution des travailleurs sociaux, mais vraiment en parallèle. C'était complètement différent. Mais je trouve que du coup, notre démarche a été plus rapide aussi, puisque souvent, dans n'importe quel dossier maintien, il y a la partie attestation de dette qui doit être fournie par le bailleur. Et souvent, ça peut prendre un peu de temps, le temps que le travailleur social reçoive le locataire, il lui manque cette pièce-là, donc il revient vers le bailleur, et que ça peut prendre quelques semaines. Nous, c'est vrai que quand on arrivait à avoir le locataire présent qui était venu avec l'ensemble des documents, on pouvait tout de suite déposer le dossier. Donc c'était très rapide pour ça.
Oui, par rapport à... Je suis d'accord avec M. Berthaud et... sur le rapport aussi que ça a pu nous permettre d'avoir avec le locataire et de changer en fait sur ce que vous disiez, le avec et pas simplement je pense que c'est revenir à l'essence même du métier, qui est vraiment que le locataire comprenne qu'on est avec lui et qu'on peut l'aider, et que c'est pas on n'est pas là que pour résorber la dette, c'est pas ça. Le but, c'est que ce soit pérenne et qu'on l'accompagne. Donc, il y a ça. Moi, ce que je retiens également aussi, c'est lorsque vous nous avez présenté le dispositif, c'était le fait que vous nous disiez ne vous mettez pas de limite sur les dossiers que vous pourriez nous présenter. Et c'est vrai que par rapport aux critères qu'on connaît, on est entre guillemets formaté. Et là, de se dire, il faut vraiment être à l'écoute en fait de la situation humaine, et même s'il y avait une difficulté psychologique, c'est quelque chose qui pouvait rentrer dedans. Et ça, c'était une dimension qui était très enrichissante pour les locataires. Et enfin, la dernière chose, c'est que c'était en secours, des aides en secours, ce qui, je pense, a fortement soulagé les familles. Voilà.
Ce que je rajouterais pour Gironde Habitat, et Virginie ne le dit pas, c'est qu'il a fallu convaincre aussi des collègues. Chez Gironde Habitat, nous n'avons pas de travailleurs sociaux ni CESF. Et donc il a fallu leur expliquer, et Virginie, qui est en soutien des équipes des agences, a été là pour leur dire « vous n'allez pas faire le boulot des AS, mais vous allez faire autre chose et vous allez relayer ces difficultés anciennes, présentes ou à venir, pour essayer de mobiliser ces secours ». Et effectivement, c'est bien Virginie de le souligner, ça a été exceptionnel et c'est vraiment pour Gironde Habitat une belle réussite. Et l'engagement que nous avons mis avec les équipes du FSL a été remarquable sur... Monsieur Berthoud l'a dit, une courte période.
De la même manière, pour Domo France, c'est vrai que les gestionnaires, le fait qu'ils aient eu la possibilité de pouvoir tous accéder à cette plateforme et tous constituer les dossiers, alors parce que l'intégralité, enfin, ça fait beaucoup de gestionnaires, parce qu'on est à peu près 10 à 15 hein, par agence. Donc ça a permis vraiment de pouvoir solliciter très rapidement, puisque c'est vrai que tous les gestionnaires de Domo France avaient la possibilité de pouvoir y accéder. Donc on a pu vraiment constituer les dossiers rapidement.
Il y a autre chose aussi, c'était le fait, et je vais reprendre un terme que vous avez dit tout à l'heure, c'était le trou dans la raquette. En fait, c'est de se rendre compte qu'il y a plein de dispositifs qui existent, mais qu'il y en a pour qui on n'a pas de réponse. Et en fait, là, c'est de se dire, bah voilà, avec ce dispositif-là, eh ben, là, on va pouvoir aider et on ne laisse personne de côté.
Alors moi, c'est vrai que c'était par rapport à la démarche, effectivement, ce changement d'approche aussi, parce que au début, quand on a présenté, voilà, on avait fait une réunion avec un panel pour effectivement présenter un petit peu cette approche. On a senti que c'était une approche différente et que au départ, le premier réflexe c'était un plan d'apurement, voilà, donc un plan d'apurement pour soulager, puisque pour vous bailleurs, le plan d'apurement c'était une solution, c'était aussi accorder des délais, et puis petit à petit, voilà, donc du coup l'histoire des 2 mois, le délai très court, ça a permis de solutionner certaines situations et d'autres qui étaient inscrites dans des plans d'apurement. Bon, donc le mieux c'est qu'effectivement aujourd'hui on ait pu avoir 224 situations de solutionner avec ce mode d'intervention.
Alors concernant l'aide en secours et sur la manière d'appréhender le dispositif, je dois dire que c'était à la fois répondre aux critères qui étaient fixés au titre du Fonds national d'APIE. C'est suite aussi par rapport à l'approche, les échanges que j'ai eus avec le pôle national de prévention des expulsions, où vraiment ils avaient une approche très élargie, donc ils nous ont encouragés. Et en fait, la notion de secours, c'était une condition nécessaire et obligatoire, mais pour laquelle, au niveau des administrateurs du FSL, ça n'a posé aucun problème, puisqu'en fait, de manière anticipée, avant que nous ayons ce dispositif, sur le budget 2021, les administrateurs, c'est la ligne logement et plus particulièrement l'accès qui avait été augmentée. Et en plus, la décision avait été prise avant la validation de ce dispositif, le fait que cette année, alors pour les publics plutôt du FSL, mais comme on a quand même des critères qui sont un petit peu plus élargis, même si ça ne couvrait pas du tout là les 200, les critères qui ont été ouverts pour ces familles. Donc en fait, les administrateurs avaient décidé de passer uniquement en secours sur l'année 2021. Mais en fait, c'était une condition du dispositif État. Mais c'est vrai que sur l'approche, vraiment, le pôle national nous a encouragés. Je ne veux pas dire qu'ils nous ont dit nos limites, mais en fait, sur une appréciation la plus large possible vis-à-vis de toutes les difficultés que pouvaient rencontrer les personnes, quoi. Aussi bien économiques, psychologiques, puisqu'on a vu dans les évaluations... que vraiment ça a impacté la vie des familles. Il y a eu beaucoup de séparations, des choses assez difficiles, des gens qui se sont retrouvés quasiment avec très très peu de ressources, pour ne pas dire pas. Et puis bon, on a tous entendu, bien sûr il y a la situation des étudiants, mais pas que. Donc voilà, je tenais à le préciser, pas que le fait du FSL.
Moi, je voulais revenir sur la relation qui a changé avec le locataire. Donc, c'est vrai que constituer ces dossiers, ça m'a permis, moi, de les voir sous un jour différent et de vraiment prendre conscience d'une situation que nous, on n'aborde qu'une seule partie, en fait. On voit l'impayé uniquement. Mais c'est vrai qu'on a pris conscience de toute l'ampleur des difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Et je pense qu'eux aussi, cet accompagnement qu'on a pu mettre en place avec ces rendez-vous, ça a pu changer leur regard sur notre travail également.
Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose ? Non, c'est bon pour tout le monde ? Oui ?
Juste un dernier mot, il y a eu vraiment une, du coup, enfin, en tout cas pour certaines situations, une relation de confiance qui s'est instauré, où certains étaient peut-être réticents, nous voyaient comme le bailleur effectivement qui veut récupérer les loyers, même si on, au quotidien on essaie de les accompagner, de mettre en place tout un tas de choses. Là, ils se sont rendus compte qu'on était vraiment là pour les aider aussi, et les orienter, et ne pas les laisser... Parce qu'encore une fois, on s'est retrouvé face à des situations de personnes qui étaient en activité professionnelle, hein, quelques temps avant, et qui du jour au lendemain se sont retrouvées seules ou en couple à perdre leur emploi. Mm-hmm. Donc voilà, c'est pas anodin dans un quotidien. Hein.
Oui, tout à fait, avec cette relation et cette confiance finalement qui s'est aussi, on va dire, endurcie grâce à cette crise. Finalement, cette crise n'a pas eu que des aspects négatifs. Au final, elle a permis la mise en place de plein de belles choses. En tout cas, merci à tous du coup d'avoir participé à cette petite table ronde qui est plutôt rectangulaire, mais on va dire table ronde. Donc merci au FSL de nous avoir accueillis, voilà le Fonds Solidarité Logement Gironde. Merci à Domo France, Gironde Habitat, Aquitanis et Mesolia, voilà, normalement j'ai oublié personne, voilà, d'avoir été présent pour ce petit plateau. Merci à Arnaud de Ricochet Sonore pour la technique, voilà. Et puis retrouvez-nous sur le site de Ricochet Sonore pour d'autres podcasts. Au revoir.
Au revoir, merci.